Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée des médias suivants. L'inconvénient et bel âge. Au programme, les romans font peut-être mieux les choses. Et bien manger à petit prix. Bonne écoute.
Les romans font peut-être mieux les choses. Retour sur l'écriture des Montagnes Noires, un essai d'Astrid Aframian, paru dans la revue L'Inconvénient à l'été 2022. En octobre 2014, j'ai perdu ma grand-mère maternelle, Svetlana, partie après plusieurs années de combat contre une maladie terrible, celle qu'on ne nomme pas, qu'on ne peut nommer, qui détruit tout le corps, le gruge et le vide jusqu'à ce qu'il n'en reste que des os et un semblant de peau. Elle ne parlait plus, ne pouvait plus manger, dépérissait sur le divan de sa cuisine à Erevan. J'ai passé l'été à ses côtés, dans la chaleur de l'Arménie, en proie à la douleur la plus intense que j'ai jamais eue à vivre. Son décès m'a soulagé d'une certaine façon. Elle ne souffrait plus. Et pourtant, moi, je souffrais encore, car Svetlana avait emporté avec elle toute une partie de mon héritage arménien. Les souvenirs du vieil Erevan, de l'Union soviétique, de son enfance durant les grandes purges staliniennes et la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux belles années de stabilité, de son travail de géologue et ensuite de professeur à l'université. Les repas qu'elle cuisinait, transformant par l'ensorcellement de ses doigts habiles les aliments les plus simples en régal. Les vieilles chansons qu'elle aimait chanter. L'absence de sa voix dans le cœur du monde m'assourdissait dans mon appartement d'étudiante de Côte-des-Neiges où j'allais devoir apprendre à vivre sans elle. Déjà en proie aux pires habitudes autodestructrices, je ne comprends toujours pas comment cette année-là j'ai réussi à ne pas échouer mes cours que je séchais volontiers. J'ai décidé sur un coup de tête de retourner en Arménie pendant les vacances d'hiver pour retrouver l'absence physique de Svetlana dans la ville. Si je parle autant de l'Arménie, dans ma vie comme dans mon écriture, cela ne tient pas seulement au fait que je suis d'origine arménienne, c'est également par désir de comprendre les histoires qui, dans cette région du monde, s'imbriquent dans la plus grande, la vraie histoire. Depuis longtemps, la Turquie nie l'existence même d'un génocide sur ses terres, ou alors elle marmonne que si ce génocide a bien eu lieu, il était mérité. Dépeints comme des ennemis et des lâches, les Arméniens auraient apporté leur aide à la Russie durant la Première Guerre mondiale, ce qui suffirait à justifier leur extermination. On retrouve ce discours chez des personnalités officielles, chez un Recep Erdogan, par exemple, mais également partout sur Internet. Chaque article qui porte sur l'Arménie, chaque vidéo qui sur YouTube met en scène une chanson arménienne, qu'elle soit aussi ancienne que celle du poète Sayanova ou plus récente, est suivie d'une section de commentaires étouffés par des internautes turcs ou azéris, des robots bien souvent, où les mêmes mots sont répétés ad nauseam, comme si cette répétition transformait le profane en sacré, l'opinion en vérité. Cette chanson est en fait azéri ou turc, ce costume traditionnel que vous portez est azéri ou turc, ce repas que vous avez cuisiné est en fait azéri ou turc. Tout est azéri ou turc. Rien n'est arménien. Comme si aucune origine arménienne n'était possible. Quand on remet constamment en question votre existence, il n'y a qu'une solution, et c'est celle vers laquelle je me suis tourné. Écrire. Documenter, même de manière imparfaite et subjective, un moment de l'histoire, avant que celui-ci ne sombre dans l'abîme de l'oubli ou, pis encore, ne soit remplacé par des faussetés. L'histoire de cette région celle qui englobe en gros la Turquie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, est multiple. L'histoire officielle de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, qui sert à justifier leur présence sur ce territoire, affirme que les Arméniens ont tout volé aux Turcs et aux Azéris. Que nos églises en ruine sont des lieux de culte pré-musulmans qui ne nous appartiennent pas, et ce malgré le fait que nous soyons un des premiers peuples à avoir adopté le christianisme. L'Azerbaïdjan, notamment, parle du peuple albanien du Caucase, dont il se dit l'héritier, ce qui lui permet d'identifier officiellement les églises arméniennes comme des églises albaniennes et d'en faire des attractions touristiques. Et ça, c'est lorsque nos églises ne sont pas tout simplement détruites, comme ce fut le cas pour la cathédrale Gazancetsot à Chouchi, bombardée à deux reprises durant la plus récente agression des Azéris envers l'Arstak en 2020. Depuis 2014, je préfère visiter l'Arménie en hiver, pour échapper à la chaleur étouffante de l'été, et surtout parce que l'été pour moi est synonyme de ma grand-mère Svetlana, de son rire, de sa voix disparue. Je me rappelle le débat qui faisait rage dans le pays en décembre 2017. L'Azerbaïdjan réclamait que le tolma, un plat à base de feuilles de vigne et de choux farcis de viande et de riz, soit reconnu comme un plat azéri. D'ailleurs, l'UNESCO venait d'inscrire officiellement le tolma au patrimoine culturel azéri, même si on le retrouve aussi au Liban, en Syrie, en Turquie, en Asie centrale, dans des livres de recettes arabes médiévaux et jusque dans les écrits de la Grèce antique. À la télévision nationale, la colère des Arméniens était surprenante. Des hommes et des femmes de tous âges s'exprimaient sur le sujet. Une autre chose que les Azéris nous volent, ils n'en ont pas assez de tout prendre des autres. Je regardais les images défiler à l'écran, les bras croisés. Je vous rappelle que vous écoutez Les romans font peut-être mieux les choses, retour sur l'écriture des Montagnes Noires, un essai d'Astrid Apraamian, paru dans la revue L'Inconvénient à l'été 2022. Pourtant, si j'ai écrit « Les montagnes noires », ce n'était pas pour parler des Arméniens, mais bien pour raconter l'histoire de Margot et de sa fille Vasia. Je n'ai jamais voulu transformer ma propre culture en élément exotique pour divertir les curieux. Je n'ai pas non plus écrit ce roman pour dire quelque chose. Les romans, pour moi, ne peuvent et ne doivent pas enseigner. Et je souscris fortement à ce qu'en dit Kundera. Le roman qui ne découvre pas une portion de l'existence est immoral. La connaissance est la seule morale du roman. L'histoire de Margot et de sa fille Vasia me servait aussi de prétexte pour faire revivre Svetlana, toujours bien présente dans mes souvenirs, et raconter une myriade d'histoires au-delà de la grande. Celle de mes grands-parents, de mes parents, l'œil affûté saura les retrouver dans les pages du roman, de mes jeux dans les arrière-cours des immeubles d'appartements d'Erevan, de l'enfance qui a laissé dans ma mémoire une auréole ensoleillée malgré les années qui passent et Erevan qui change, qui se transforme en une ville que je ne reconnais plus. Mais Margot raconte d'abord une histoire, et cette histoire, j'aurais pu la retrouver dans un autre roman portant sur une autre guerre. Margot aurait pu exister en Espagne dans les années 1930. Elle aurait alors été un médecin volontaire se battant pour les républicains contre les fascistes de Franco. Margot aurait également pu exister durant la Deuxième Guerre mondiale, n'importe où sur le territoire européen. Elle aurait alors été un médecin volontaire, se battant contre les nazis, caché dans le maquis en France ou auprès des partisans en Biélorussie. Elle aurait même pu vivre aujourd'hui, au Rojava, ou encore une fois, en Artsakh, mais une trentaine d'années après les événements racontés dans mon roman, car un autre type de bataille y est livré présentement. L'histoire de Margot est celle d'un combat perpétuel pour la liberté et la solidarité, une lutte contre les forces fascistes. Le fascisme n'est pas mort en 1945. Depuis, on l'a laissé survivre sous diverses formes et sous divers régimes autoritaires. Ceux de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, par exemple, qui sont soutenus par des oligarques. Les élections dans ces deux pays sont frauduleuses. L'indice de démocratie et de liberté d'expression pour les journalistes y est très bas et la vie de ces derniers est constamment en danger. On ne trouve aucune mention de ces faits, pourtant, dans les journaux occidentaux. L'histoire de ces pays, qui s'est construite sur des hécatombes, sollicite de plus en plus souvent des notions dangereuses liées à la pureté de la race. À Istanbul, en 2007, le journaliste Hrant Dink s'est fait abattre en pleine rue par des ultranationalistes pour avoir osé écrire le mot « génocide ». Deux semaines plus tard, le prix Nobel de littérature 2006, Orhan Pamuk, fuyait la Turquie, lui qui s'était déjà vu traîner en cour pour avoir insulté l'identité turque en évoquant le génocide arménien et le massacre des Kurdes par les Turcs. Du côté de l'Azerbaïdjan, le romancier Akram Aylizli a été perçu comme un traître à la nation pour avoir publié « Rêve de pierre » où il raconte l'irracontable, l'extermination des Arméniens de Nakhitchevan et les pogroms commis par les Azéris à Bakou. Le président de l'Assemblée azérie a même demandé s'il ne fallait pas soumettre Aylizli à des tests d'ADN pour déterminer s'il n'est pas plutôt arménien, suggérant ainsi qu'un Azéri ne pourrait jamais faire face à la vérité des horreurs commises dans le passé. Comme si son sang était trop suspect pour être celui du sang azéri. Et pourtant, le père du président azéri et du clan Aliyev, Edar, qui a inspiré à son peuple la haine du mien, serait né en Arménie. Ce détail biographique a d'abord été effacé par les sources officielles, qui ont trouvé ignoble et honteux que le chef de la nation, autour duquel il existe un culte de la personnalité, rappelant celui voué à Staline, ait pu naître dans le pays des traîtres, des humains de seconde classe. Aujourd'hui, les choses ont changé et un simple sophisme permet à l'Azerbaïdjan de revendiquer le territoire arménien comme sien. Si Edar est né en Arménie, c'est que l'Arménie était historiquement azérie. Cela me fait penser aux rumeurs sur les origines d'Abdulhamid II, le dernier sultan ottoman déposé en 1909 et mort en 1918. Certaines sources ont suggéré que sa mère était une esclave arménienne du harem impérial, du nom de Virginée. Abdulhamid II est l'auteur des massacres perpétrés contre les Arméniens et les autres minorités de l'Empire ottoman. Les massacres hamidiens, précurseurs du génocide arménien de 1915, orchestrés par les jeunes Turcs. Cherchait-il, en faisant tuer des centaines de milliers d'Arméniens, femmes, hommes, enfants, vieillards, tous passés sous l'épée, à faire taire son appartenance à un peuple de seconde classe? Cherchait-il à prouver que sa mère arménienne ne faisait pas de lui un bâtard? Par la suite, la famille d'Abdulhamid II a tenté de faire taire ces rumeurs, déclarant que celles-ci venaient des ennemis du sultan et servaient à le discréditer dans un pays où dire de quelqu'un qu'il est arménien relevait et relève encore de l'insulte. Et pourtant, des arméniennes et des grecs et des assyriennes étaient vendues comme esclaves pour le harem impérial. Les mères des sultans, choisies pour leur beauté, et souvent pour leur peau pâle, leur apparence européenne, étaient rarement elles-mêmes d'origine turque. C'étaient le plus souvent des circassiennes appartenant à des clans de nobles se trouvant autour de la mer Noire. La plus célèbre des Kadines, Roxelan ou Hurrem, la femme du sultan Soliman le Magnifique, dont le règne s'est étendu de 1520 à 1566, était d'ailleurs d'origine ukrainienne, elle aussi esclave, kidnappée par les Tatars de la Crimée pour être vendue aux Ottomans. Lorsque la journaliste turque, Ashi Erdogan, elle-même emprisonnée en 2016 pour avoir miné l'identité nationale, écrit que « l'histoire est un affront terrible fait aux histoires et aux malheurs des individus », elle parle aussi des liens très compliqués qui unissent les Arméniens aux Turcs, les victimes à leurs bourreaux. Bourreaux qui refusent toujours de croire non seulement en une histoire officielle, mais également aux histoires individuelles. Celles des femmes arméniennes subitement disparues, islamisées, mariées de force à des Turcs. Celles de ces femmes qui sont devenues malgré elles les mères d'une nation qui a en horreur leur histoire personnelle, une histoire effacée, remplacée par une autre, construite de toutes pièces. Celle d'une grande nation qui, oubliant qu'elle a piétiné les Arméniens, les Grecs, les Assyriens, les Kurdes, veut se croire fière et pure, sans autres identités que la turque. À force de tout gommer, on construit une histoire en apparence universelle qui laisse bien des questions sans réponse, sauf pour des ébauches au goût de nationalisme dangereux. C'est cette fausse histoire qui devient trop facilement l'histoire nationale. Je vous rappelle que vous écoutez « Les romans font peut-être mieux les choses », retour sur l'écriture des Montagnes Noires, un essai d'Astrid Apra-Amian, paru dans la revue L'Inconvénient, à l'été 2022. Un ami m'a écrit durant la guerre de 2020 pour me dire à quel point il admirait les Arméniens pour leur détermination et leur hardiesse. À quel point il était admirable qu'un peuple aussi démuni ait pu rebâtir un pays sur les cendres d'un génocide, qu'un peuple aussi souvent colonisé par les Perses, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Mongols, les Tatars, les Ottomans et maintenant les Azéris puisse encore exister. Peut-on croire qu'une nation si dévalorisée puisse encore continuer de vivre? C'est cela aussi qu'il m'était nécessaire de montrer dans le roman de Margot. Qu'il y a eu en Arménie une vie après le génocide, que cette vie était riche, pleine, légère, soutenable. Qu'il y a eu là des Azéris, des amis de l'Arménie, partis et perdus dans le pays du pétrole avoisinant. En 2020, alors que le monde était aux prises avec une pandémie, l'Azerbaïdjan a tenté sa chance en attaquant l'Artsakh. Lorsque nos jeunes soldats conscrits, pour la plupart des jeunes hommes de 18 ans à peine, tentant de sauver ce brin de territoire des griffes d'un nouveau fascisme, se faisaient massacrer à coups de drones envoyés en renfort par la Turquie, ce qui me gardait éveillé la nuit, ce n'était pas seulement leur mort en continu, mais le discours ambiant des journaux occidentaux. On ne sait pas qui a lancé l'agression. Les deux côtés. On ne sait pas qui a rompu le cessez-le-feu. On ne sait pas. On ne sait pas. Que de sottises j'ai lu et entendu durant cette deuxième guerre pour l'Artsakh. Des journaux aussi réputés que le New York Times rappelaient sans cesse que l'Artsakh est un territoire contesté, que l'Organisation des Nations Unies l'avait désigné comme tel et qu'il appartenait de jure à l'Azerbaïdjan depuis que Staline lui avait si gentiment offert le territoire en 1924, bien que la population qui y vivait fût majoritairement arménienne, en laissant bien sûr tomber cette information, pourtant si importante, et en omettant de rappeler les massacres des Arméniens perpétrés par les Azéris sur ses terres en 1920. Même aujourd'hui, au printemps 2022, alors que la guerre ravage l'Ukraine, le New York Times n'hésite pas à rappeler, dans la même phrase, que la Russie envahit, invades l'Ukraine, mais que l'Azerbaïdjan moves into territory, en Artsakh, et se réjouit de la menace d'une nouvelle guerre dans le Caucase qui pourrait distraire les Russes du front ukrainien. J'entends aujourd'hui le discours sur l'Ukraine et la Russie. La Turquie, qui a pu rejoindre l'OTAN malgré l'autocratie qui règne dans le pays, veut soudainement se retrouver du bon côté de l'histoire. Peut-on imaginer une Allemagne qui refuserait de reconnaître l'Holocauste et qui serait néanmoins accueillie dans l'OTAN? Et pourtant, c'est bien ce qui est en train d'arriver avec la Turquie. Les médias ont été très rapides à condamner l'agression russe, avec raison. Sur les réseaux sociaux, dans un coin caché par les drapeaux bleus et jaunes, une poignée de gens, arméniens, palestiniens et autres, se rappellent néanmoins avec amertume comment leur propre combat a été ignoré. Comment la presse et les médias ont refusé de peindre un portrait clair de l'ennemi véritable, alors que, pour peu qu'ils le veuillent, ils en seraient bien capables. La rhétorique des euphémismes pourrait disparaître du discours médiatique en un clin d'œil et les responsables se retrouver subitement poussés hors des brumes où ils se terrent, comme c'est le cas avec la Russie aujourd'hui. Mais il est peut-être trop tard. Quelle confiance les oubliés de l'histoire peuvent-ils encore avoir envers la presse? Les Romains font peut-être mieux les choses. Cette année, je retourne en Arménie. Non plus en hiver pour me cacher du soleil, mais en mai, au dernier souffle du printemps, avant l'arrivée fulgurante de l'été. Je ne sais pas ce que je vais y trouver. Un pays divisé, qui porte peut-être encore son humiliation, celle d'avoir dû concéder des territoires arrachés par le sang dans les années 1990 aux Azéris. Un pays pris entre deux ennemis, la Turquie et l'Azerbaïdjan, qui ont très clairement indiqué qu'ils veulent éradiquer toute trace d'arménianité dans la région. Un pays qui s'étouffe et qui prétend que tout va bien, que tout va pour le mieux, et que l'on peut y vivre dans la même insouciance qu'en Europe. Je ne sais pas. Je ne peux prétendre être sereine en pensant que ce tout petit territoire puisse un jour disparaître, que l'histoire, en proie à un aveuglement volontaire, n'en tiendra plus compte. Pourquoi rappeler sans cesse ce qui s'est passé il y a une centaine d'années? Pourquoi rester de façon si têtue en 1915, année du génocide arménien, alors que tout autour de nous évolue? On me l'a souvent demandé. Sans doute parce que, comme l'écrivait encore récemment Asli Erdogan, la liberté est un mot qui refuse de se taire. C'était « Les romans font peut-être mieux les choses », retour sur l'écriture des montagnes noires, essai d'Astrid Abrahamian, paru dans la revue L'Inconvénient à l'été 2022.
Bien manger à petit prix. Un texte d'Isabelle Huot, docteur en nutrition, paru dans le magazine Bel Âge. Inflation à l'horizon. Une augmentation totale du coût des aliments de 5 à 7% est prévue cette année. Selon une enquête de Statistique Canada menée du 19 avril au 1er mai 2022, plus de 2 Canadiens sur 5 ont déclaré que la hausse du prix des aliments est celle qui les affecte le plus. On estime que chaque famille dépensera 1 000 de plus cette année en denrées alimentaires. Voici quelques trucs pour bien manger à petit prix. On planifie. Une bonne organisation sur le plan alimentaire veut dire faire régulièrement l'inventaire du garde-manger, du frigo et du congélateur afin d'éviter d'acheter des ingrédients en double. Prévoir les menus de la semaine en fonction des aliments frais à consommer rapidement. Consulter les circulaires afin d'y repérer les bons achats. La viande est à bon prix, on en achète plus et on la congèle. On adopte les protéines végétales. La viande a connu une hausse de coût significative. On économisera considérablement en la remplaçant de temps à autre par des protéines végétales. Les légumineuses, surtout sèches, la protéine végétale texturée, PVT, et le tofu sont économiques et bons pour la santé. À titre comparatif, dans un repas constitué de 20 g de protéines, il en coûtera 1,98 $ pour 100 g de bœuf haché extra maigre, contre seulement 42 sous pour une quantité équivalente de PVT achetée en vrac. On privilégie les aliments non préparés. Un poulet entier revient à 77 sous pour 100 g de viande, alors que des poitrines parées et désossées se détaillent à environ 2,20 $ pour la même quantité. De même, un filet de porc mariné coûte 30% plus cher que sa version non aromatisée. C'est payant de cuisiner ses soupes, ses muffins, voire son bouillon maison. On prend aussi le temps d'apprêter ses fruits et légumes. En effet, un ananas coupé en morceaux à l'épicerie est vendu 50% plus cher que le fruit entier. On priorise les forbats réguliers. Le prix des portions individuelles est toujours plus élevé. Par exemple, la portion de gruau tirée d'un sac de 1 kg reviendra 60% moins cher que si elle provient d'un sachet individuel. Même constat quand il s'agit de yogourt ou de fromage, par exemple. On mise sur le zéro gaspillage. Une famille canadienne moyenne jette plus de 1 100 $ de nourriture par année, soit l'équivalent de 140 kg d'aliments. D'où l'importance de bien planifier, de dresser une liste d'épiceries, d'acheter en vrac, de cuisiner toutes les parties comestibles d'un aliment et de revaloriser les restes. C'était « Bien manger à petit prix », un texte d'Isabelle Huot, docteur en nutrition, paru dans le magazine Bel Âge.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.qc.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et André Lebeau à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.